Et c'est le journal de Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, des hausses de salaire et pourquoi pas des heures de nuit ou de week-end. On va négocier dans l'hôtellerie-restauration à partir d'aujourd'hui. Et les syndicats auraient tort de manquer d'ambition vu la pénurie de main-d'œuvre du secteur. Vaccinés et covidés, la cinquième vague en France n'épargne pas ceux qui se croyaient à l'abri, même si le vaccin leur évite le plus souvent de finir à l'hôpital. Témoignage à suivre. Beaucoup de médias entre peu de mains. Une commission d'enquête du Sénat se penche à partir d'aujourd'hui sur cette concentration presse, télé, radio. Une Europe où chacun fait ce qui lui plaît. Est-ce encore l'Europe ? Débat sur la souveraineté tout à l'heure à votre micro, Nicolas.
Oui, avec deux invités, le journaliste Jean Quatremer, correspondant européen du quotidien Libération, et l'ancien haut commissaire au plan, Henri Guénaud. Ils échangeront donc à notre micro avec Léa tout à l'heure. Vos questions, bien entendu, 01 45 24 7000.
Des femmes envoyées du Paraguay pour faire des passes en région parisienne, un gros réseau de prostitution démantelé. On parlera aussi dans ce journal des antibiotiques moins utilisés chez les animaux d'élevage, c'est une bonne nouvelle. Et du Beaujolais nouveau, mais oui, jour J ce jeudi.
France Inter.
Travailler soir et week-end, le coup de feu deux fois par jour en cuisine ou en salle. Cette villa, 235 000 salariés n'en ont plus voulu dans la restauration et l'hôtellerie depuis la crise sanitaire. Travail difficile et trop peu rémunéré. Sur la table des négociations qui s'ouvrent aujourd'hui entre les syndicats et les patrons du secteur. Il sera question d'augmentation de salaire mais aussi de conditions de travail avec l'État qui met la pression sur les patrons après les avoir massivement aidés pendant la crise. Manuel Ruffez.
Elles sont particulières, ces négociations. Le patronat de l'hôtellerie-restauration se trouve dans l'obligation d'en sortir par le haut pour satisfaire le gouvernement qui s'est montré très insistant, mais surtout pour attirer des salariés. L'activité reprend, constate un observateur du secteur, mais il n'y a personne pour faire le boulot. Alors le patronat annonce déjà des augmentations de salaire. Didier Chenet du groupement des indépendants.
Nous allons faire des propositions qui sont, je dirais, avec des augmentations très substantielles. C'est vrai qu'aujourd'hui, la situation que nous vivons du fait de la pénurie de main-d'œuvre nous pousse un peu plus. C'est plutôt ça qui nous pousse. Maintenant que l'État nous pousse, je ne le conteste pas.
Mais plus question de 13e mois. Quant aux représentants des syndicats de salariés, dont Arnaud Chemin pour la CGT, ils réclament aussi l'amélioration indispensable des conditions de travail.
Il n'y a pas de majoration d'heures de week-end, du travail de nuit, donc ça, il va falloir aussi qu'on trouve des solutions sur ces sujets-là. Certaines organisations patronales ont proposé un week-end non travaillé par mois garanti. Nous, on serait plus sur une base de deux week-ends, donc au niveau de conditions de travail, on peut faire mieux et ça fait partie de solutions très concrètes qui peuvent être applicables rapidement.
Arnaud Chemin de la CGT qui n'hésite pas à parler de négociations historiques, tant pour cette fois, elle semble devoir être favorable aux salariés.
Et on négocie aussi à la SNCF. En ce moment, les syndicats réclament une augmentation générale. Ils appelaient à la grève hier. La direction propose une prime de pouvoir d'achat de 300 à 600 euros, conditionnée à la signature d'un accord global sur les rémunérations par ces mêmes syndicats.
8h04, encore 20 000 nouveaux cas de Covid-19 hier et 50 décès.
Le niveau monte et la cinquième vague est bien là, malgré les 50 millions de Français complètement vaccinés. Il y a certes 4 fois plus de tests positifs chez les non-vaccinés. Mais on le sait, avec le variant Delta depuis l'été, les injections qui protègent des formes graves n'évitent pas les contaminations. Exemple avec cet habitant du Lot, qu'a joint Faustine Calmel.
Avec un schéma vaccinal complet, Vincent abordait sereinement les retrouvailles avec sa famille et ses amis dans le Nord.
J'ai été testé positif, mon retour des vacances de la Toussaint.
Après notamment une fête, 30 personnes toutes vaccinées et 4 qui contractent la maladie. Pour Vincent, les symptômes ne sont pas graves, mais pas anodins non plus.
J'ai eu d'abord donc 3 jours de fièvre, malgré tout, ensuite, et ensuite la perte de l'odorat. Pour une version allégée, j'ai trouvé que c'était quand même pas mal. J'avoue que sur l'odorat, c'est quelque chose que je trouve pas bénin. Ça m'embête un peu. Après, j'ai du mal à juger dans le sens où je ne sais pas en quel état j'aurais été non vacciné.
3 jours après son test positif, c'est son fils aîné, 8 ans, qui tombe malade, puis sa compagne, non vaccinée. La cadette et le dernier, 3 mois, sont pour l'instant négatifs, mais tous à l'isolement dans leur maison du Lot.
C'est évidemment se replonger dans les joies du confinement, revivre en vase clos, s'organiser pour les courses, trouver un train-train tolérable. J'avais comme intention de me vacciner pour ne plus revivre ce confinement. Bon, je suis retombé dedans.
D'autant qu'il faut à nouveau faire la classe à la maison et qu'avec le cas positif de son fils, l'école a fermé pour une semaine.
Et jusqu'où montera cette cinquième vague ? Va-t-elle une nouvelle fois déstabiliser les hôpitaux ? Question entre les mains des modélisateurs, ces spécialistes des modèles mathématiques dont les prévisions sont toujours plus difficiles à réaliser, Sophie Bécherel.
L'épidémie de Covid-19 est si complexe et surprenante qu'un seul modèle mathématique ne suffit pas. À l'Institut Pasteur, l'équipe de chercheurs sait désormais qu'elle doit faire la moyenne des 6 modèles qu'elle utilise pour avoir l'image la plus proche de la réalité. La difficulté vient notamment des variants et de leurs spécificités qui changent, sans compter nos changements de comportement, comme par exemple le fait d'avoir rendu de nouveau obligatoire le masque à l'école. À chaque paramètre qui varie, il faut refaire les calculs, ce qui n'empêche pas une marge d'erreur dans ces modèles. Elle est de 6% à une semaine et presque le double à 2 semaines au niveau national. Depuis les derniers scénarios d'octobre, la situation a encore changé. Sur l'efficacité des vaccins, par exemple, les chercheurs qui utilisaient le chiffre fourni par les laboratoires pharmaceutiques doivent prendre en compte ce que plusieurs études ont montré, la baisse au fil des mois de l'immunité. Avec l'entrée dans l'hiver, il faut aussi prendre en compte la météo. Température et taux d'humidité ont un impact significatif sur la dynamique de l'épidémie. Les prochaines simulations de l'Institut Pasteur sont attendues la semaine prochaine.
En attendant ces prévisions, on peut déjà dire qu'on n'est pas prêt de se passer des gestes barrières et du masque, qui ne sont plus suffisants chez nos voisins belges. Télétravail obligatoire 4 jours par semaine à partir de lundi. L'Allemagne s'apprête à faire de même. Ceux qui voudront se rendre au bureau quand même devront être vaccinés ou testés. Voilà ce que prévoit un projet de loi examiné en urgence au Bundestag aujourd'hui. Et puis la Suède va instaurer à partir du 1er décembre et pour la première fois un pass vaccinal pour les événements de plus de 100 personnes en intérieur.
France Inter, il est 8h07. La suite du journal. Florence Paracuelos.
Les limites de la liberté d'expression ont été franchies. C'est la procureure de la République de Paris qui parle. Elle a requis 10 000 euros d'amende à l'encontre d'Éric Zemmour, jugé hier pour ses propos sur les mineurs étrangers isolés traités de voleurs, d'assassins et de violeurs, qui synthétise ses propos les mécanismes de la haine, selon la représentante du ministère public. Ces mots, c'est sur CNews qu'Éric Zemmour les a prononcés il y a 2 ans, propriété de Vincent Bolloré, qui a depuis étendu son pouvoir dans les médias. Un des gros dossiers dont les sénateurs veulent s'emparer. Une commission d'enquête va se pencher à partir d'aujourd'hui sur la concentration des médias. Question cruciale et politique. Alexandra Acuna à l'orée de la campagne présidentielle.
C'est la récente actualité du secteur qui a motivé la mise en place de cette commission, la prise de contrôle annoncée des médias du groupe Lagardère par Vincent Bolloré, le projet de rachat du groupe M6 par TF1, des mouvements de concentration qui inquiètent David Assouline.
Tout cela s'est fait sans débat public. Les gens ne savent même pas qui possède quoi.
Il est l'un des 3 sénateurs PS à l'initiative de cette commission.
Une commission d'enquête va permettre de montrer comment se sont faits ces processus, mais surtout d'éclairer l'opinion publique pour que une chose aussi fondamentale pour la démocratie qu'est l'information et qu'est le monde médiatique aujourd'hui, on puisse de façon éclairée juger si ça va dans le bon sens.
Dès cet après-midi, et la désignation de ses 21 membres issus de tous les groupes politiques, la commission va pouvoir entamer ses travaux et envisager des auditions. Aucun grand patron de médias ne pourra s'y soustraire. Voilà pourquoi justement le Sénat a opté pour une commission d'enquête plutôt que pour une mission d'information.
C'est un outil parlementaire beaucoup plus puissant. Quand on veut un document, on doit nous le fournir. Quand on veut auditionner quelqu'un, il doit venir.
En 2016, pour parler de la reprise en main du groupe Canal+, les sénateurs avaient dû patienter 9 mois pour que Vincent Bolloré accepte de venir devant la commission des affaires culturelles.
Chez les Républicains, le compteur s'est arrêté à 150 000. Nombre des adhérents qui vont pouvoir voter pour désigner le candidat du parti à la présidentielle entre le 1er et le 4 décembre. Ils avaient jusqu'à mardi minuit pour prendre leur carte. Quand un gros réseau de prostitution tombe, ça n'est pas si fréquent. Une 20aine de personnes arrêtées. Ils exploitaient en région parisienne au moins 40aine de jeunes femmes venues du Paraguay et contraintes à 20aine de passes par jour. Ce réseau, Ariane Grissel, était extrêmement bien organisé.
L'enquête a démarré il y a 2 ans après que l'une des femmes a réussi à fuir le réseau et signaler les faits. Comme les autres victimes, elle vient de la région de Ciudad del Este, ville du sud-est du Paraguay. La commissaire divisionnaire Elvire Arrigui dirige l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains. Elle est actuellement sur place dans le cadre de ses investigations.
On est vraiment dans des endroits reculés, modestes. Ce sont des victimes clairement en situation de vulnérabilité. Et on arrive bien à comprendre comment elles sont ensuite orientées vers une agence de voyage qui va leur fournir des billets d'avion et qui ensuite va également les aider dans leur manière de s'habiller ou de présenter leur situation aux autorités françaises pour pouvoir aller travailler en France où elles espéraient gagner de l'argent et avoir des jours meilleurs.
Elles se retrouvent en réalité entre les mains d'un réseau décrit comme quasi industriel. Elvira Rigui.
Vous avez une répartition savante des rôles entre ceux qui vont poster les annonces de la prostitution, ceux qui vont déplacer les victimes d'un appartement à l'autre, ceux qui vont récolter l'argent et le renvoyer au Paraguay, parfois avec un rebond en Espagne, et également ceux qui vont gérer les lignes téléphoniques de prostitution pour fixer les rendez-vous des clients.
Les jeunes femmes sont contraintes de rembourser les dettes qu'elles ont contractées pour venir en France et ne touchent qu'une partie de la recette. Les enquêteurs cherchent maintenant à savoir si le réseau a pu faire d'autres victimes.
Ariane Grissel, bientôt plus d'animaux sauvages dans les cirques et les delphinariums et plus de chiots et de chatons vendus dans les animaleries à partir de 2024. Après l'Assemblée mardi, le Sénat doit aujourd'hui valider un projet de loi contre la maltraitance animale. Côté élevage, la dernière vidéo de l'association L214 est encore insoutenable. Tournée dans le plus gros poulailler industriel de France, en Mayenne, il appartient au leader du secteur qui exploite les marques Le Gaulois, Loué, Maître Coq ou encore Doux. On y voit des poulets entassés qui agonisent à même le sol. La bonne nouvelle ce matin concernant l'élevage, c'est la baisse de l'utilisation des antibiotiques pour soigner les animaux. C'est important parce que ça participe à réduire les résistances aux bactéries chez l'homme en bout de chaîne. Le mouvement est donc bien engagé, Véronique Julia, comme le confirment les derniers chiffres de l'Agence de sécurité sanitaire.
En 2005, les animaux consommaient plus de 1300 tonnes d'antibiotiques par an. En 2020, la consommation a été réduite des deux tiers, ils ne consomment plus que 415 tonnes et depuis quelques années, finalement, on a atteint une sorte de plateau. Il faut bien soigner les animaux, mais on fait beaucoup plus attention. On a beaucoup limité, par exemple, l'usage des céphalosporines et des fluoroquinolones. Leur consommation a été réduite quasiment de moitié depuis 2013. Conséquence, l'antibiorésistance chez l'animal a tendance à diminuer. Ces progrès, on les doit aux bonnes pratiques des éleveurs et des vétérinaires qui utilisent d'autres armes face aux infections, explique Gilles Salva, directeur à l'ANSES.
Les vaccinations contre les virus évitent ces infections virales qui sont souvent la porte d'entrée à une surinfection bactérienne qui va nécessiter l'usage d'antibiotiques.
Si les progrès sont très visibles chez les animaux d'élevage, bovins, porcs, volailles, c'est un peu moins vrai pour les animaux de compagnie, Gilles Salva.
On est sur une médecine individuelle, on n'est pas sur des pathologies de troupeaux. Hein. Je pense aux infections cutanées, par exemple, récurrentes chez le chien. Ce sont des infections qui génèrent des grosses consommations d'antibiotiques et donc qui vont générer des résistances.
Attention, prévient l'ANSES, car la transmission de bactéries résistantes de l'animal de compagnie à l'homme n'est pas rare. Sachant qu'en France, un foyer sur deux dispose d'un animal de compagnie, la question n'est pas à prendre à la légère. Le conseil simple et basique, mais efficace, c'est de se laver les mains autant que possible après avoir touché son chien ou son chat.
Véronique Julia, Ligue des Championnes, quatrième jour. Les filles du PSG ce soir ont rendez-vous à Madrid face aux Espagnols du Real. Hier, les Lyonnaises ont perdu 1-0 face au Bayern de Munich. Première défaite après 19 victoires d'affilée. Enfin, il n'y a pas si longtemps, c'était un jour de fête. L'arrivée du Beaujolais nouveau aujourd'hui ne sera pas célébrée comme dans le temps parce qu'on dit souvent beaucoup de mal maintenant de ce vin primeur, même à Lyon. La tradition se perd, mais Christophe Vincent a quand même trouvé des amateurs.
Dans ce café, place des Jacobins, le Beaujolais nouveau fait beaucoup moins recette. Du coup, Pierre, le serveur, s'adapte.
On va proposer un petit coup de Beaujolais, un petit verre de Beaujolais avec un peu de charcuterie, tout simplement. Et puis voilà, mais c'est plus comme c'était, on le fait plus comme avant.
Parce que donc, les gens sont moins...
moins intéressés, depuis bien avant le Covid. Hein. S'il y a un peu de monde, tout ça, on fera ce qu'il faut. Mais moi, j'y crois pas trop, non.
Il y a quand même des irréductibles, comme Arlette et Christian, garantis purgones.
Ah ben c'est important, c'est Lyon, dans toute sa splendeur, c'est le troisième fleuve.
C'est quoi les trois fleuves?
Le Rhône, la Saône et le Beaujolais.
C'est un petit peu passé de mode quand même.
Il n'y a plus la fête, non, ça c'est dommage, j'irais peut-être boire un petit coup. Hein.
Qui dit Lyon, dit Beaujolais nouveau, dit Bouchon, je pense que ça se perd quand même, c'est un symbole. Faut marquer le coup, même s'il n'est pas toujours très bon, on va le boire quand même.
C'est quoi le programme de la journée?
Eh ben alors c'est les puces, avec restaurant à midi, et puis le soir, Bouchon au terreau.
Avec le pot de Beaujolais?
Ça va de soi, oui, absolument, oui.
Oui, mais deux.
Cette année encore, le Covid a eu raison de deux rituels, le roulage des tonneaux dans les rues et la percée publique. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
Alors, on nous dit qu'il sera léger cette année avec des arômes de fraises et de framboises. Primeur aussi, les sondages Médiamétrie qui mesurent l'audience de la radio sont publiés ce matin, Nicolas, et nous pouvons nous réjouir.
Oui, à commencer par vous, Florence, qui restait la femme la plus écoutée de France. Bravo.
Bravo.
Et bah vraiment, merci. Et oui, réjouissons-nous pour France Inter qui demeure la première radio de France et de loin sur les deux critères qui mesurent l'audience.
Le 7-9 reste également la première matinale de France avec plus de 4 millions d'auditeurs que nous remercions ce matin très chaleureusement. Très. Les interviews de la matinale, le 7-50 et le grand entretien sont sur la première marche du podium. Coup de chapeau enfin et vraiment à Mathilde Munoz dont le 5-7 fait une rentrée historique et bat tous les records.
Carton.
On embrasse aussi Daniel Morin hein, qui nous passe la main tous les matins à 7h et se fout de notre gueule.
Voilà.
On est vraiment obligé de l'embrasser.
Non, je sais pas si on va l'embrasser. En tout, on veut pas vous noyer de chiffres, mais en tout cas, France Inter est écoutée par 6 527 000 auditeurs chaque jour. Voilà, merci.
Mmh. Ouais, vraiment, merci. Et permettez-moi un mot encore sur la radio en général, la radio comme média. Ses usages sont en plein bouleversement. La radio de la cuisine et de la salle de bain n'a pas disparu, loin de là, mais elle fait une place de plus en plus grande de nouvelles formes d'écoute sur smartphone, tablette, ordinateur, en streaming, en podcast. Cette révolution est en marche. Elle est d'autant plus passionnante à vivre qu'elle remet l'audio, comme on dit maintenant, au centre de nos vies. Et France Inter est aussi la première radio la plus podcastée de France.
Voilà, merci à tous, merci encore. Place maintenant à la météo la plus écoutée de France.
Marie-Pierre Planchon.
Marie-Pierre, vous avez la pression.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
C'est la pression atmosphérique, hein, Marie-Pierre.
Mais oui, vraiment, mais ça laisse des brouillards, je suis désolée.
Oui, très dense. Nombreux en plus ce matin.
Ah, oui. Et dense, hein, sur les Pays de la Loire, le Poitou-Charente, le Centre-Val de Loire, l'Île-de-France, le Grand Est, la Bourgogne, sur le nord de l'Auvergne. Au Lyonnais, prudence, hein, sur les routes, parfois pas plus de 100 mètres de visibilité, comme Vermeaux ou Châteauroux. Ailleurs, le gris domine ce matin, en revanche, des Pyrénées, la vallée du Rhône, aux Alpes, à la Corse, le ciel est vraiment dégagé avec des petites gelées, moins 3 dans la Drôme, mais aussi à Beauvais, alors qu'on relève 14 à Antibes et 10 à Cherbourg, vous avez 6 à Nancy ou Bordeaux.
Et un peu plus d'éclaircies dans l'après-midi.
Oui, avec cette hausse des pressions, eh bien le soleil fera de belles apparitions sur tout le pays, avec quand même de la grisaille qui va résister des plaines du sud-ouest au centre au nord-est. Et il fera beau en montagne jusqu'en Corse. Et cet après-midi, ce sera contrasté aussi entre les 6 à Issingeaux en Haute-Loire, 8 à Reims et les 19 à Bastia et 20 à Toulon. Vous aurez 10 à Paris, 11 à Lyon, à Lille comme à Toulouse, 13 à Biarritz, 14 à Cherbourg et 17 à Marseille.
Merci Marie-Pierre.
Et bravo.
Oui, bravo à vous. À tout à l'heure. Il est 8h17.